Actu, économie, culture, politique, environnement. Votre premier contact avec l'actualité. Déterminé, enraciné, ancré. Philippe Vincent Foisy.
Vendredi 25 novembre, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien ce matin. Vous allez passer une belle journée en ce vendredi, fort probablement un peu pluvieux un peu partout dans le sud du Québec. Vendredi qui est surtout pour ceux et celles qui sont tannés de l'inflation, le Black Friday. Il pourrait nous permettre d'avoir quelques rabais, là, d'ailleurs. Un super article sur le site de TVA Nouvelles. Vous n'êtes pas trop sûr là, comment profiter du Black Friday, puis où aller, puis quoi acheter, puis c'est... Et ultimement, c'est quoi les meilleures choses à acheter pendant cette journée-là? Mais il y a un article qui nous dit c'est quoi les 5 meilleurs articles qui offrent les meilleurs rabais. On parle des produits saisonniers, habits de neige, articles de plein air. Je vous dirais que les deux meilleurs, là, c'est les articles dont on a vraiment besoin et les produits qu'on prévoyait acheter. Si vous étiez pour vous acheter des bottes, peut-être la meilleure journée pour les acheter aujourd'hui. Cadeau de Noël, si vous savez un peu où vous en allez, c'est peut-être la meilleure journée aussi pour les acheter, pour avoir des rabais. Quoique, un peu partout, on va avoir les week-ends de Black Friday, lundi du Cyber Monday. Vous voyez, ça peut encore durer quelque temps. Mais si vous avez vraiment beaucoup d'argent, là, vous savez plus quoi faire avec, là, tu sais, il y en a qui en ont besoin. Ce matin, dans le Journal de Montréal, je pense que c'est ce qui retient le plus d'attention. À un mois de Noël, de plus en plus d'organismes qui ont besoin d'aide parce qu'ils aident de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de ménages de la classe moyenne qui demandent de l'aide, qui n'allaient pas dans les banques alimentaires, qui là commencent à y aller. Il y a ceux qui allaient dans les banques alimentaires qui là ben ont besoin de plus que juste de la nourriture, vêtements et autres parce que la vie coûte énormément cher. C'est notre collègue Clara du Journal de Montréal qui est allée sur le terrain tendre le micro à ces groupes-là qui n'en peuvent plus. Puis eux autres vivent un problème qui est double en ce moment. Parce qu'il y a moins de dons. Les gens ont moins d'argent. Fait qu'ils ont moins d'argent à donner. Tout coûte plus cher. Parce que l'inflation les touche aussi. S'ils achètent de la nourriture, c'est comme nous. Ça coûte plus cher pour les banques alimentaires aussi. Et la demande augmente de l'autre côté. Donc, d'essayer de trouver l'équilibre, c'est hyper difficile pour ces banques alimentaires-là. Puis, il va y avoir la guignolée des médias qui s'en vient, s'entraide. Il y en a plein d'organismes en ce moment qui viennent en aide à ces gens-là. Il y en a sûrement un ou deux dans votre communauté qui se démènent depuis des semaines pour garder la tête hors de l'eau. Un 5, un 10, un 20, peu importe ce que vous êtes capable de donner, ça peut faire la différence dans la vie de ces organismes-là qui vont changer les choses dans la vie de plein de personnes dans votre communauté. Est-ce que la pauvreté, vous la connaissez peut-être pas, vous la voyez peut-être pas? Elle a plein de visages, elle a plein de statuts sociaux en ce moment. Cette pauvreté-là, elle touche énormément de monde. Classe moyenne, qui n'était pas, qui faisait pas partie de ceux et celles qui en avaient vraiment besoin. En ce moment, ils ont des besoins, ces gens-là, de la classe moyenne aussi. Alors, si vous avez le temps d'être généreux aujourd'hui, au cours des prochaines semaines, c'est une autre période là où ces gens-là vont avoir besoin de vous. Aujourd'hui, on va parler pas mal aussi de la commission Rouleau, sur la loi sur les mesures d'urgence. On va y revenir dans les analyses, notamment avec Marc-André Leclerc tantôt. C'était juste drôle d'entendre hier Chrystia Freeland nous parler d'investisseurs américains, de présidents de banque qui disaient que le Canada est une république de bananes à cause des blocus à la frontière. Il y avait les blocus ferroviaires avant. Ce qu'on comprend, c'est qu'ultimement, le vrai problème et la vraie menace à la sécurité nationale, c'est surtout à l'économie nationale. Puis les craintes qu'on avait avec les États-Unis, comme quoi les Américains pèsent lourd quand ils prennent le téléphone pour dire « attention ». Ça va mal, on n'aime pas ce qui se passe en ce moment, on a des craintes. C'est comme si on avait encore le petit traumatisme, le post-négociation avec Trump sur l'ALENA. On revient aussi dans le journal sur le programme d'accueil des réfugiés ukrainiens. Vous savez, on en a parlé il y a quelques semaines déjà, où on savait que le programme était, comment dire, lousse, c'était un peu généreux pour les Ukrainiens, et c'était tant mieux au début, parce qu'on se disait, ben, évitons de la paperasse, évitons que ça soit compliqué pour un Ukrainien qui est à Kharkiv, qui est à Mariupol, qui est en train de se faire bombarder, qui est dans le Donbass, de dire ça prend les papiers, il va falloir remplir, on veut le certificat de naissance, puis l'horoscope, puis le dernier bulletin, puis vous savez des fois comment ça peut être compliqué, mais là on avait dit on va simplifier ça. Mais on a peut-être un peu trop simplifié parce que ce qu'on apprend, c'est qu'il y a pas mal d'Ukrainiens qui sont pas des réfugiés, qui étaient dans des pays non européens, qui vivaient de façon très adéquate, là, en Émirats arabes unis, en Israël, en Chine, aux États-Unis même, qui ont demandé ce fameux visa pour pouvoir venir ici. Puis je dis, OK, bon, c'est pas la fin du monde, là, on parle de quoi, une dizaine de milliers de personnes, là. C'est pas énorme, mais en même temps, 15 000 visas de personnes qui viennent ici, ben, c'est un peu injuste quand même pour les immigrants qui attendent pour arriver ici, pour les autres réfugiés qui sont dans des conflits, qui sont dans des zones de guerre, puis qui n'arrivent pas à rentrer dans le système de réfugiés. Tu sais, des réfugiés, on est des réfugiés pour pouvoir être protégés. Puis là, bon, il y en a qui ont passé au travers des mailles du filet là-dedans. C'est un visa de 3 ans, c'est peut-être pas la fin du monde. Ils vont pouvoir s'intégrer, travailler, donc, mais quand même, pour les autres, quand même une énorme injustice ici. Alors que tu regardes ce qui se passe en Ukraine comme tel, les Russes qui ont continué de bombarder des infrastructures énergétiques, il y a encore des milliers d'Ukrainiens qui sont privés de courant. J'ai vu hier une vidéo d'une chirurgie cardiaque sur un jeune. Ça s'est bien passé, mais tu te dis, comment ils réussissent à faire ça alors qu'ils n'ont presque plus rien, notamment presque plus d'électricité. Sinon, dans les autres journaux ce matin, dans la presse, on revient sur le fameux fonds qui finance le réseau routier et le transport collectif. On nous dit qu'au Québec, le fonds il est déficitaire. Maintenant, pas dans 15 ou 20 ans, comme le disait le ministre François Bonnardel, le ministre des Transports. Donc, on sait que maintenant, Québec sait que son fonds est déficitaire, mais ne veut rien faire. Et là, on se dit, ben, qui va combler ce vide-là? Ben, ça va être vous et moi et tout le monde, même ceux qui ne conduisent pas des voitures. On va utiliser les impôts. Parce qu'à un moment donné, il faut payer pour ces routes, il faut payer pour le transport en commun. Puis on s'était dit, ben, utilisateur-payeur, vous prenez votre voiture, ben, vous allez payer pour les routes. Comment? Ben, on va taxer le litre d'essence. Chaque litre que vous allez consommer, vous allez payer une taxe. Plus vous allez consommer de l'essence, donc plus vous allez utiliser le réseau routier ou plus vous allez avoir une grosse voiture, mais plus ça va vous coûter cher et plus vous allez entretenir le réseau. Par contre, on n'a pas indexé cette taxe-là. Ça fait en sorte que quoi? Ben, on s'est appauvri du côté du gouvernement et du côté de ce fonds-là, alors que les besoins, eux, augmentent. Le réseau routier augmente, les besoins en transport en collectif augmentent aussi. Et il y a de moins en moins d'auto à essence avec le fait qu'il y a de plus en plus d'auto électriques. Et le vrai problème ici, c'est quoi? C'est qu'on l'a caché. C'est que le gouvernement nous a totalement caché ça pendant l'élection. Le Journal de Montréal sortait qu'on avait étudié et qu'on était en train d'étudier du côté du ministère des Transports. Le gouvernement, non, nous autres, on veut pas faire ça. On savait pas. Alors qu'on le savait. On a lancé un chantier de réflexion. On a fait une tournée. On connaît les solutions en ce moment. Mais on n'a pas voulu en parler. On a préféré diaboliser les taxes oranges de Québec solidaire. On s'entend là-dessus, là. On peut dire que le gouvernement était peureux, entorieux. Au lieu d'avoir une vraie discussion sur un réel problème de financement d'un fonds qui est hyper important, nos routes, notre transport collectif, on a préféré comme si faire comme si de rien n'était. Puis tout va bien été, là, puis peut-être dans 15 ou 20 ans, puis là, on va pelleter le problème tellement loin qu'on n'y verra que du feu. À un moment donné, le gouvernement, par contre, au cours de ce prochain mandat, n'aura pas le choix de trouver une solution là-dessus. Sinon, autre gros problème, celui-là dans le réseau de la santé, c'est les médecins qui arrêtent pas de faire de la paperasse. Le Devoir a un témoignage, puis on le lit un peu partout, c'est suite à un sondage qui a été fait par la Fédération des médecins omnipraticiens, des médecins de famille, c'est qu'à peu près le quart de leur temps qui est utilisé pour faire de la maudite paperasse. Ça, c'est remplir des documents, signer des papiers, regarder que la CNESST, les assurances, là, tu peux pas aller travailler parce que là, t'as vu un médecin. On peut pas faire signer ça par un physiothérapeute, pas par un ergothérapeute, pas par une infirmière praticienne. Non, ça prend un médecin. Imaginez-vous la quantité d'heures que les médecins utilisent de leur temps, qui est du temps perdu à ne pas voir des patients pour remplir des maudits documents parce que les assureurs sont pas capables de revoir leur formule. Le gouvernement fédéral l'a fait avec leurs assurances, là. Si vous voulez voir un massothérapeute, avez-vous vraiment besoin de prendre un rendez-vous chez votre médecin de famille pour vous faire rembourser pour vos assurances? Ben non. Si vous foulez une cheville, pourquoi vous n'allez pas chez le physio directement? Ben non, faut voir un médecin, et le médecin dit, oui, la cheville est vraiment finie, il faut prendre un rendez-vous chez le physio. Ben oui, je le sais. Tout le monde le sait. Pourquoi ça prend un médecin? Pourquoi il faut engorger le système à cause des assurances? Sincèrement, c'est une aberration. Puis on suit un jeune médecin de famille qui disait, hey, en 10 heures aujourd'hui de travail, j'ai vu une 60aine de patients, finit sa journée, 300 documents qu'il doit remplir, qu'il doit gérer, qu'il doit faire des suivis. Ça n'a pas de bon sens. Sinon, deux autres histoires plutôt sensibles dont on a parlé un peu, mais sûrement pas assez. Il y a 22 femmes autochtones qui ont été stérilisées de force depuis 1980 au Québec. 1980, pas 1800, 1980. Puis le dernier cas remonte à 2019. Ça, c'est au Québec, c'est pas ailleurs au Canada. Fait que, quand on parle de racisme systémique et d'autres, c'est quand même important de se mettre ça dans le contexte aussi. Il y a des médecins au Québec, dans les hôpitaux, qui l'ont dit à des femmes, ou qui l'ont fait contre leur gré. Ligature des trompes, bing-bang, toi, t'as plus d'enfants parce que t'es irresponsable, etc. Les ministres, en ce moment, disent que c'est inacceptable, avec raison. Quand même, ça remonte à 2019 au Québec. Sinon, la deuxième histoire, c'est celle de la c'est celle des anciens combattants. Il y a quelqu'un au ministère des anciens combattants, un agent, qui a abordé la question de l'aide médicale à mourir avec 4 vétérans. Pas un, 4 vétérans. Il y a une enquête de la GRC en ce moment là-dessus, mais sincèrement, tu dis à quel point il faut manquer, un, de sensibilité, puis deux, de jugement total et entier pour dire ah, ça va mal, toi. T'as-tu déjà pensé à l'aide médicale à mourir? Pensez-y à quel point ça n'a pas de bon sens et que c'est totalement inacceptable de ce côté-là.